chronique de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Un billet d'Asie sur Hong Kong. Hong Kong est un paradoxe, à la fois terriblement européenne et profondément chinoise. C'est un paradoxe car cette ville rassemble en elle-même toutes les contradictions possibles. Sur la durée, d'abord, cette place, car c'est au départ une place commerciale, aurait dû disparaître plusieurs fois, au profit de Shanghai, de Singapour, de Taipei. Elle aurait pu disparaître à la fin de l'ère victorienne, après la Seconde Guerre mondiale, avec le système populaire de Mao, après le départ des Britanniques. Eh bien non, elle est là, plus active, plus affairée, plus arrogante, plus besogneuse, compliquée et secrète que jamais. Incroyablement bruyante, en fait, elle est muette. Muette sur elle-même, sur son objet même. À quoi sert Hong Kong ? Hong Kong est une irremplaçable passerelle entre l'Est et l'Ouest, entre un monde interdit et un monde insaisissable, entre l'immobile et le changeant, entre l'éternel et le fugace, l'interdit permis et l'autorisé inatteignable. On est très vite happé par cette ville, sans grâce spéciale, où un paysage sublime a totalement été saccagé, ravagé par l'homme. Ce dernier est toujours pressé à transformer le sous-sol en gruyère pour faire se rejoindre îles et continents, a bâti des ponts pour enjamber la baie, des plateformes de béton pour réduire la mer à une congrue portion de paysage. Dieu doit être bien mécontent. L'homme est tellement bête avec son béton. Dieu avait donné une baie parfumée, il reste un monstre enfumé. L'île, Kowloon et leur faubourg sont très européens. Ceux qui débarquent à Hong Kong en veine d'exotisme seront très déçus. C'est une ville ancienne, de type 19e siècle, modelée par la présence des Britanniques, dotée d'un climat proche de celui de la Côte d'Azur, d'immeubles victoriens très laids, souvent très sales d'ailleurs, de buildings modernes serrés les uns contre les autres, qui rendent certains quartiers ombreux, entretiennent la stagnation du mauvais air de circulation automobile. Nathan Road, qui est la principale artère verticale, est à certaines heures irrespirable, tout comme l'arrière du front des buildings de l'île. Souvent noyée dans la brume, la baie tarde à se découvrir. La ville est souvent laide, sale, mal entretenue, bien qu'il y ait eu des progrès faits. Il n'y a pas à Hong Kong cette manie du balayage et du lavage à grande eau qu'on peut rencontrer à Singapour ou à Kuala Lumpur. Dans les centres les plus anciens, beaucoup d'immeubles à demi ruinés, désaffectés, sur les toits desquels les plus pauvres ont encore bâti des cahutes en tôle et en chiffon, où ils s'entassent, présentent un aspect qui est quelquefois désolant. Les Anglais, sachant qu'ils allaient forcément partir un jour ou l'autre, ont tout laissé aller dans leur notoire sens de l'économie. Quand on connaît la légendaire pingrerie écossaise, la peur de manquer irlandaise, les histoires de Dickens et le plat porte-monnaie de Madame Thatcher, on est à peine étonné. D'un autre côté, Hong Kong est une ville profondément chinoise. Hong Kong, d'une certaine manière, se méprise elle-même d'être aussi européenne. Dès que l'on est sorti de l'extrême centre, les manières chinoises reprennent le dessus. On parle chinois, tout est écrit dans cette langue. Les marchés, les commerces, les manières appartiennent profondément à l'empire du milieu. Malgré les buildings d'habitation hideux qui sont plantés dans le sol comme des cigarettes, ces manières frappent bien plus que dans les autres grandes villes d'Asie du Sud-Est par un saisissant effet de contraste. La langue, les échoppes, la nourriture, les temples, les hôtels partout, et cet accueil très réservé, à la fois amusé et distant, devant tout ce qui s'apparente au concurrent occidental, séduit et agace à la fois. Les Hongkongais sont les plus gros mangeurs d'oranges du monde, peut-être pour compenser le gris et la brume. L'ensemble de la ville connaît une des plus fortes densités urbaines jamais chiffrées sur la planète. Bientôt, lorsque la banlieue de Shenzhen aura rejoint les territoires du Nord, l'ensemble urbain global formera la plus grande conurbation du monde et la plus peuplée. Parfois, on est atteint de crainte devant ce goût pour le monstrueux et le gigantesque. Mais il existe aussi de vrais petits bonheurs timides à Hong Kong, dont on se délecte au milieu de la presse et du bruit, comme d'une séance de tai chi inavouable à l'oriental. D'abord, il y a la nourriture. Hong Kong est sans doute l'endroit où l'on mange le mieux de toute la planète asiatique. Toutes les cuisines, toutes les variantes de mets sont représentées. Des violents ragoûts du Sichuan aux raffinements impériaux, tout est là, à portée de porte-monnaie dans une abondance rassurante. Pour un peu, on deviendrait chinois, on mangerait toute la journée. S'habiller de neuf est aussi une joie illimitée à Hong Kong. C'est une ville où on a l'art de la coupe, tous les tissus du monde y sont représentés, il y a un réel raffinement des créations, une rapidité d'exécution, une foultitude de petits créateurs indépendants dont l'imagination est sans borne. La mode se crée là, dans des arrière-boutiques dotées d'une singère d'avant-guerre, et aussi chez le rassurant Hua, sorte de bon marché à la chinoise où l'on trouve tout, absolument tout, dans un infernal désordre. Il y a de merveilleuses promenades dans des banlieues encore rêveuses, souvent noyées de brume, Stanley, Aberdeen, le Pic, avec ses abruptes pentes herbues où l'on rencontre encore des singes et des écureuils. L'Ocean Park, qui offre des paysages merveilleux. L'île de Lantau, son calme et son grand Bouddha, où malgré la proximité de l'hérétique aéroport nouveau, on continue d'amener les petits-enfants pour qu'ils apprennent à prier. Tout qu'au monastère de Sha Tin, où l'on peut s'envoler en fumée, la conscience tranquille, dans de petits fours rouillés disposés en plein air autour de la pagode, et où, à l'heure du déjeuner, les employés de banque, les vendeuses de magasins et les conducteurs d'autobus viennent honorer leurs défunts, fruits et fleurs à la main. Hong Kong est un excellent exercice de compréhension du monde. Rudyard Kipling, dans un poème bien connu, « Ni Est ni Ouest », avait écrit en son temps que les deux mondes ne se rejoignaient jamais. C'est encore vrai, sauf à Hong Kong.